On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Vrai ou faux? Il y a des inondations seulement quand il pleut beaucoup. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 3 avril 2025 dans les As de l'Info. Le printemps est arrivé. Et avec lui, la saison des inondations. Ces dernières semaines, plusieurs villes du Québec, comme Nicolet et Beauceville, se sont retrouvées les pieds dans l'eau. Des familles ont dû quitter leur maison en attendant que la rivière retourne dans son lit. La faute aux fortes pluies? Oui, mais pas seulement. Enfile tes bottes, je t'explique. La recette de l'inondation. Au Québec, des inondations peuvent arriver à tout moment de l'année, mais elles sont plus fréquentes au printemps. Et non, ce n'est pas juste à cause de la pluie. Voici les ingrédients d'un débordement. Une bonne dose de neige fondue. Quand la température grimpe d'un coup, la neige fond très vite. Résultat, des litres et des litres d'eau se déversent dans les rivières. Un sol très dur. Lorsque le sol est encore gelé, il est dur comme du béton. L'eau ne peut pas s'y infiltrer. Alors, elle file directement vers les rivières qui gonflent encore plus. Un embâcle de glace. Quand la température augmente, la glace des rivières fond et se casse. Des blocs peuvent s'accumuler là où la rivière est plus étroite. Ils forment alors un barrage glacé qu'on appelle embâcle. À cause de ça, l'eau déborde sur les côtés. Une grosse louche de pluie. Si on ajoute à ça une grosse quantité de pluie, on obtient une affreuse recette au goût de bouette. Les types d'inondations au Québec. Au Québec, les inondations sont la catastrophe naturelle la plus courante parce que beaucoup de gens vivent à côté de la mer, d'un lac, d'une rivière ou du fleuve. Il en existe plusieurs sortes. Type d'inondation, inondation en eau libre, lieu, rivière, lac. Cause principale, trop d'eau d'un coup pendant la fonte des neiges au printemps ou lors de fortes pluies. Inondation par embâcle, lieu, cours d'eau étroit. Cause principale, accumulation de glace qui bloque l'écoulement de l'eau dans une rivière. C'est le type d'inondation le plus fréquent au Québec. Refoulement de conduite. Lieu, ville, quartiers urbains. Cause principale, trop de pluie d'un coup, par exemple pendant un orage, ce qui fait déborder l'eau des égouts. Inondation côtière. Lieu, bord de mer. Cause principale, tempête, grosses vagues et marées fortes, hausse du niveau de la mer à cause des changements climatiques. Des solutions pour rester au sec. Même si on ne peut pas empêcher la neige de fondre ou la pluie de tomber, on peut limiter les dégâts des inondations printanières. Voici comment. En surveillant de près la météo et le niveau des rivières. En cassant la glace pour éviter les embâcles. En construisant des murs de protection, digues et des maisons plus résistantes. En protégeant les zones humides qui agissent comme de vraies éponges naturelles en absorbant le surplus d'eau. Et surtout, en évitant de construire dans les zones inondables. Est-ce qu'il y a déjà eu des inondations près de chez toi? C'était comment? Pour ou contre des enfants et des ados dans les concours de talent à la télé? un texte de Caroline Bouffard, paru le 7 avril 2025 dans les As de l'Info. C'était la grande finale de Star Academy dimanche soir. Mia Tiner, 16 ans, affrontait Karine Sans Regret, 20 ans. Et c'est Mia qui a gagné. Depuis le début de la saison, les juges ont dit combien ils la trouvaient solide et mature pour son âge. Mais certains téléspectateurs considéraient justement qu'elle était trop jeune pour participer à cette émission. Aux As, on s'est demandé « Est-ce que c'est une bonne idée de permettre à des enfants ou des ados de participer à ce genre de concours à la télé ?» Les pour, ils sont bons. Pas besoin d'avoir 18 ans pour avoir du talent. Ceux qui se rendent si loin sont bons, point. Ils se démarquent aux auditions, travaillent fort pendant toute la compétition, se dépassent chaque semaine. Qu'ils aient 12, 14 ou 16 ans, c'est le talent qui compte, pas leur année de naissance. Une occasion en or de se lancer. Participer à une compétition comme Star Academy ou La Voix, c'est l'occasion de voir le fonctionnement d'un métier qui nous fait rêver. Plateau de télé, studio d'enregistrement, maquillage, répétition, conseil de pro. C'est la meilleure façon de savoir si on est fait pour cette vie ou pas. Ils sont bien entourés. Les participants sont encadrés par une immense équipe. Ils ne sont pas laissés seuls. Du matin au soir, ils sont accompagnés, conseillés et coachés par des professionnels. Même quand l'aventure se termine, il y a des psychologues qui les aident à s'ajuster à leur nouvelle vie. C'est rassurant et aussi très stimulant. Les contres. Les critiques peuvent être très dures. Participer à des concours télévisés, c'est beaucoup de pression. Ce n'est pas facile de se faire critiquer devant plus d'un million de téléspectateurs. En plus, le public peut être vraiment dur. Cette année, deux participants de Star Academy, Marc-Antoine et Laurence, se sont tellement fait intimider sur les réseaux sociaux que l'émission a dû réagir. Ça peut être très blessant. Encore plus à un âge où on développe notre personnalité. Fini la vie privée. Quand on devient vedette à la télé, on peut dire bye-bye à notre vie privée. Ça transforme les relations avec les amis et l'entourage. Le retour à la vie normale peut être difficile quand on a l'impression que tous les inconnus qu'on croise nous connaissent, nous observent. Ça peut avoir un impact à long terme sur nos relations. C'est trop tôt. Participer à ce genre de concours, c'est extrêmement exigeant. Ça peut priver les plus jeunes de vivre des moments importants dans leur enfance qui ne reviendront pas. Pourquoi plonger si vite dans un monde d'adultes de performance? C'est important de vivre son enfance et son adolescence, de se tromper, sans le faire devant les caméras. Toi, es-tu pour ou contre des enfants et des ados dans des concours de talent à la télé? Cultiver des fruits tropicaux au Québec, c'est possible? Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 10 avril 2025 dans les As de l'Info. Faire pousser des bananes, des mangues et des ananas au Québec. Tu penses que c'est impossible? Eh bien non. Myriam Claude, une jeune horticultrice pleine d'idées et d'énergie, veut prouver qu'on peut cultiver toutes sortes de fruits tropicaux dans notre région nordique. Il suffit d'un peu d'ingéniosité, de beaucoup de passion et de serre bien chauffée. Attention, cet article a un goût fruité. Une passion qui pousse depuis l'enfance. Myriam aime dire qu'elle a grandi dans un tas de terre. Petite, elle passait ses journées à jouer dans la pépinière de sa famille à Saint-Eustache. En observant ses parents et ses grands-parents, elle a appris beaucoup de choses sur les plantes, les arbres et les arbustes. Aujourd'hui, elle travaille dans cette pépinière et elle passe son temps à imaginer les projets les plus fous. Sa dernière idée? Faire pousser des fruits tropicaux au Québec. des bananes québécoises. Pour réaliser son rêve, Myriam a commencé par planter des bananiers dans une serre. Bien au chaud, dans ses grands abris transparents, et à la grande surprise de toute la famille, ces arbres ont produit des centaines de délicieuses bananes. Rien n'arrête Myriam. Comme elle le dit souvent, tout est faisable, la seule limite est dans notre tête. Il faut foncer et persévérer pour réaliser ses rêves. Bientôt, dans la pépinière, on trouvera non seulement des bananes, mais aussi des papayes, des mangues, des ananas, des fruits de la passion, de la vanille. Une pépinière écolo. Pour Myriam, il est important que ces fruits tropicaux poussent de la façon la plus écologique possible. Adieu les produits chimiques. Elle utilise des solutions naturelles pour protéger ses plants. Elle réutilise aussi tous les pots en plastique et transforme même les déchets en ressources. Tout se récupère. Je ne produis jamais de déchets. Dès qu'il y a quelque chose qui traîne, je trouve une façon de le réutiliser. Bientôt, la pépinière de Myriam sera encore plus écolo. Elle sera chauffée grâce à des panneaux solaires et du gaz naturel produit à partir des déchets organiques, feuilles mortes, fruits tombés, etc. Manger local, c'est bon pour la planète. Les fruits tropicaux cultivés au Québec sont encore très rares, mais les expériences de Myriam prouvent qu'un jour, on pourra probablement en cultiver assez pour les vendre dans les épiceries. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que manger des fruits cultivés ici permet d'éviter de les faire venir de très loin. Ça veut dire moins de transport et donc moins de gaz à effet de serre. Et si ces fruits savoureux et nutritifs sont cultivés en respectant la nature, comme le fait Myriam, c'est encore mieux pour notre santé et celle de la planète. Et toi, est-ce qu'il y a un fruit que tu aimes tellement que tu rêverais d'en faire pousser à la maison? Lequel? Quand le talent épate mais que les idées dérapent. Un texte de Gilles Abel paru le 11 avril 2025 dans les As de l'Info. Alexander Ovechkin est un joueur de hockey exceptionnel. Il marque des buts comme personne et bat des records impressionnants. Mais Ovechkin ne fait pas seulement parler de lui pour son talent. Il soutient aussi le président de la Russie, Vladimir Poutine. C'est le dirigeant qui a ordonné l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine est aussi accusé d'emprisonner et même d'assassiner les gens qui s'opposent à lui. Alors, peut-on applaudir un sportif tout en sachant qu'il soutient quelqu'un qui cause tant de souffrance? Cette question dérange, mais elle est importante. Quand le sport devient politique, on entend parfois dire que le sport et la politique ne devraient pas se mélanger. Mais est-ce vraiment possible? Les sportifs célèbres ont une grande influence sur leurs fans et certains utilisent parfois cette célébrité pour défendre des causes. Cela demande du courage car les conséquences sont parfois brutales. Prenons Colin Kaepernick, qui est un joueur de football américain. En 2016, il s'est agenouillé pendant l'hymne national de son pays. C'était une façon de dénoncer les violences policières contre les personnes noires. Certaines personnes ont considéré que c'était un geste héroïque. Son maillot est devenu le plus vendu de la Ligue. Mais ça a aussi causé tout un scandale. Des fans en colère ont brûlé ses chandails en public. Pour eux, mettre un genou à terre pendant l'hymne national était un grand manque de respect. Kaepernick a été insulté, menacé et finalement exclu de la NFL, la Ligue nationale de football américain. Megan Rapinoe, joueuse de soccer américaine, a également été critiquée pour ses opinions. Elle a mené un combat pour que les joueuses de soccer gagnent autant d'argent que les hommes. Rapineau a été la cible d'insultes homophobes et de menaces en ligne, mais elle n'a jamais reculé. Et en 2019, après avoir remporté la Coupe du monde de soccer avec son équipe, Megan Rapineau a inspiré un mouvement mondial pour l'égalité des genres dans le sport. Même si ce combat n'a pas été facile, sa persévérance a payé. Aujourd'hui, les équipes masculines et féminines américaines reçoivent un salaire égal. Pourquoi on ne peut pas rester neutre? Les sportifs célèbres ont une responsabilité immense car ils influencent énormément de monde. Quand ils soutiennent une cause ou un dirigeant, cela peut avoir des conséquences réelles dans la population. Dans les situations comme celle d'Ovechkin, il faut se demander ce que veut dire « je ne veux pas mélanger le sport et la politique ». Cette position peut sembler confortable, mais cela revient à ignorer l'impact des paroles ou des actions d'un sportif. À un moment, il faut se demander où est la limite entre ce qu'on peut accepter et ce qui est inacceptable. Admirer quelqu'un ne veut pas dire tout accepter sans réfléchir. Parfois, il faut savoir dire « j'aime son talent, mais pas ses idées ou ses actions ». Ce n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel pour comprendre ce qui est juste. Et toi, qu'en penses-tu? Peut-on célébrer les exploits sportifs d'un athlète même si ses idées ne nous plaisent pas, ou devrait-on l'ignorer? Pour ou contre les sous-sols? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 14 avril 2025 dans les As de l'Info. Tu te rappelles du 9 août 2024? Moi, oui. Ce jour-là, entre 10 et 20 cm de pluie sont tombés sur plusieurs régions du Québec. Et une partie de cette eau s'est retrouvée dans mon sous-sol. Je ne suis pas la seule. L'an dernier, des milliers de maisons ont été inondées dans la ville où j'habite. Cette tempête de pluie, la pire de toute l'histoire du Québec, a fait dire à des spécialistes en habitation qu'on devrait peut-être les interdire, les sous-sols. Avec les changements climatiques, les inondations seront beaucoup plus fréquentes. Ils suggèrent de revoir la façon dont on construit les maisons. Tu en penses quoi, toi? Voyons les pour et les contre des sous-sols. Les pour, c'est dans notre culture. L'amour des Québécois pour leur sous-sol est assez unique au monde. C'est dans les années 1950, avec l'arrivée d'un modèle de maison qu'on appelle les bungalows, que les sous-sols aménagés et décorés deviennent populaires. Party de famille, du Nouvel An, de gang d'amis, ce sont des endroits où on se bâtit des souvenirs. De l'espace supplémentaire, un sous-sol, c'est tellement d'espace supplémentaire dans une maison. En plus, c'est l'endroit idéal pour une salle de jeu. On peut y lâcher notre fou sans déranger les adultes au rez-de-chaussée. C'est le repère idéal des ados québécois. Et quand c'est la canicule, on peut s'y réfugier pour un peu de fraîcheur. Pas touche. Du rangement. Bientôt, les skis et les vêtements d'hiver vont migrer vers le sous-sol. Ils iront rejoindre les décorations de Noël. Le sous-sol peut aussi permettre de désencombrer les garde-manger et d'entreposer les réserves de nourriture. Dans certaines maisons, on retrouve des chambres froides, des pièces non chauffées qui servent de deuxième frigo. C'est pratique. Les contre, pas fait pour les changements climatiques. Des tempêtes de pluie comme celle de l'été dernier, on en aura plus souvent avec les changements climatiques. Les systèmes d'aqueduc et d'égouts des villes ne sont pas adaptés à cette nouvelle réalité. L'eau en trop se retrouvera dans les sous-sols. Les inondations coûtent cher. Et après, on stresse dès qu'il pleut fort. Plus de sous-sol égale bye-bye stress. C'est humide. Le sous-sol, c'est en fait un carré de béton froid et humide. C'est plus compliqué et cher à chauffer. Ce qu'on y met risque d'être endommagé par l'humidité. Des moisissures peuvent aussi se développer, ce qui est très mauvais pour la santé. On devrait plutôt construire en hauteur. La solution pour avoir plus d'espace et réduire au maximum les risques d'inondation, c'est de construire en hauteur. C'est ce que recommandent les spécialistes en habitation. Laissons le sol tranquille et ajoutons des greniers à nos maisons. Toi, es-tu pour ou contre les sous-sols? Nuit blanche et déchets dangereux. Un texte de Camille Lopez paru le 7 avril 2025 dans les As de l'Info. La semaine dernière, les députés québécois ont passé toute une nuit au Parlement. Non, ils ne participaient pas à un party pyjama. Pendant 18 heures, ils ont plutôt débattu à propos d'un projet de loi controversé et qui a finalement été adopté. Cette nouvelle loi force la ville de Blainville à céder un terrain à une compagnie américaine qui va y enterrer des déchets dangereux. La ville s'inquiète de l'impact sur l'environnement, mais le gouvernement affirme qu'il n'avait pas le choix. Voici ce qu'on sait. Une poubelle américaine? La compagnie américaine Stablex traite les matières dangereuses, comme les sols contaminés et les piles, puis les enterre. À Blainville, au nord de Laval, Stablex se sert déjà d'un grand terrain comme dépotoir. Les résidus viennent d'un peu partout au Québec, et une partie provient même des États-Unis. Mais l'entreprise commence à manquer de place pour enfouir ses déchets. Elle veut donc pouvoir utiliser un autre terrain à Blainville. Sinon, elle devra arrêter ses activités dans 2 ans. Un environnement menacé. Ce terrain, c'est plusieurs milieux humides précieux où l'on retrouve des animaux menacés, dont des salamandres, des reptiles et des oiseaux. Y construire un dépotoir, ça veut dire raser les arbres et la végétation. Tu peux t'en douter, cela détruira les habitats et affectera les animaux. La ville de Blainville s'y oppose vivement. Vite, vite! Le 15 avril prochain, une loi qui protège les oiseaux migrateurs entre en vigueur jusqu'au 1er septembre. Conséquence, il sera bientôt interdit de détruire leur habitat à Blainville. Stablex veut donc pouvoir aller sur le terrain le plus rapidement possible pour pouvoir faire ses travaux. Nuit blanche. Le 28 mars, le gouvernement du Québec a adopté une loi qui va forcer Blainville à donner ce terrain à Québec, qui le cédera ensuite à Stablex. En échange, la ville recevra 17 millions de dollars. Pour y parvenir, la CAQ, le parti au pouvoir, a utilisé une procédure spéciale qu'on appelle « bâillon ». Elle permet d'adopter une loi en quelques heures, sans prendre le temps normalement prévu pour l'étudier et la débattre. Mais les députés des autres partis n'étaient pas d'accord du tout. Ils ont donc passé la nuit à s'opposer au projet jusqu'au lever du soleil. La loi a ensuite été adoptée. Selon la CAQ, c'est une loi nécessaire pour aider Stablex qui est à l'étroit et pour protéger l'économie du Québec. Blainville conteste. Dès que la loi a été votée, la ville de Blainville a décidé de se tourner vers les tribunaux pour empêcher la destruction du terrain. Une manifestation sur place a eu lieu samedi. Le combat autour du dépotoir n'est donc pas fini. Et toi, si tu le pouvais, que dirais-tu au gouvernement et à l'entreprise Stablex? Des super-héros pour la planète. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 13 mars 2025 dans les As de l'Info. Et si la nature cachait de vrais super-héros? Je ne parle pas de ceux qui portent des capes ou des masques, mais d'animaux, de plantes et même de bactéries aux pouvoirs incroyables. Leurs exploits aident à protéger la planète et à lutter contre le réchauffement climatique. Partons à la découverte de ces super êtres vivants. Les baleines à fanons. Piège à carbone. Une seule baleine peut stocker jusqu'à 33 tonnes de CO2 dans son corps au cours de sa vie. Quand elle meurt, elle coule au fond de l'océan et garde ce carbone enfermé pendant des siècles. Engrais magique. Les excréments de baleines flottent à la surface et servent de nourriture au phytoplancton, de minuscules plantes marines qui produisent énormément d'oxygène et absorbent des tonnes de CO2. Vortex marin. En plongeant et en remontant à la surface, les baleines mélangent l'eau des océans. Ces mouvements font circuler les nutriments dont se nourrit le phytoplancton. Les arbres. Aspirateurs à CO2. Chaque année, un arbre absorbe des dizaines de kilos de CO2 qu'il transforme en oxygène grâce à la photosynthèse. Et plus un arbre est gros et âgé, plus il en avale. Piège à carbone. Un arbre garde le CO2 emprisonné dans son tronc, ses branches et ses racines pendant de nombreuses années. Une grande épinette contient environ une tonne de CO2, soit la quantité de gaz rejeté par un trajet aller-retour entre Montréal et Vancouver, en voiture, à essence. Climatiseur naturel. En ville, les arbres peuvent réduire la température de plusieurs degrés en produisant de l'ombre et de l'humidité. Pratique pendant les canicules. Et toi, connais-tu des êtres vivants vraiment épatants?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.